C'est d'un petit opuscule ardu, sombre, mais novateur et imaginatif que nous allons parler aujourd'hui, au-delà du principe de plaisir, en compagnie de Paul-Laurent Hassoun, qui est notamment l'auteur de Freud, la philosophie et les philosophes, paru aux presses universitaires de France. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors pourquoi ce petit texte pour finir cette première semaine consacrée au père de la psychanalyse ? Parce qu'il marque, semble-t-il, une rupture. Un approfondissement en forme de rupture du système freudien qui, jusqu'ici, au dire même de Freud, n'avait pas intégré dans sa théorie ce qu'il avait à dire sur la mort. En 1920, raconte Fritz Wittels, qui est le premier biographe de Freud, Freud nous surprit par la découverte qu'en toute chose est à l'œuvre, outre le principe de plaisir que depuis les Grecs on nomme Eros, un autre principe. Tout ce qui vit a le vouloir de mourir. Issu de la poussière, toute vie veut redevenir poussière. Soit en toute chose non seulement une pulsion de vie, mais aussi une pulsion de mort. Lorsque Freud communique cette découverte à un monde attentif, il est sous le coup d'une profonde émotion. Il a perdu sa fille chérie en plein épanouissement, après avoir longtemps tremblé pour ses proches qui se battaient au front. Alors, Paul-Laurent Hassoun, on se sent toujours bizarrement un peu le droit, avec l'homme qui raconte l'interprétation de ses propres rêves, de réduire à un moment de la vie les moments d'une pensée. Mais est-ce qu'une telle explication historique, un peu réductrice peut-être, vous semble plausible ?
Non, je dirais non, fondamentalement. D'emblée, d'ailleurs, Freud a réfuté assez longuement, à plusieurs reprises, la version de Wittels que vous citez, en montrant que, par exemple, notamment sa fille Sophie était, je le cite, dans une santé florissante, au moment où il a commencé à rédiger ce texte.
L'au-delà a été écrit en 1919, à une époque où ma fille était encore en pleine santé et, voilà. Et florissante, effectivement.
Voilà. Donc, il y a deux choses. C'est qu'il y a une sorte d'objectivité frappante et remarquable du travail de Freud quant au contenu même de l'inconscient. Il y a quand même quelque chose qui s'appelle la métapsychologie. Bon, c'est un terme un peu lourd, mais indispensable.
Non, c'est indispensable pour comprendre son projet ici.
Voilà, et pour nommer, au fond, la superstructure théorique de la psychanalyse, sa partie la plus spéculative, mais sans laquelle la clinique elle-même ne pourrait pas changer, évoluer, être lue.
Est-ce qu'on peut, restons un instant sur la métapsychologie, avant d'aller dans le texte, hein, oui. Au-delà du principe de plaisir et sa valeur ajoutée, oui. C'est-à-dire ce dualisme freudien qui articule le plaisir à la mort.
Oui.
La métapsychologie de Freud, est-ce qu'il faut le comprendre comme l'entreprise par Freud de convertir la psychanalyse, de convertir ce qui n'était qu'un traitement des névroses en théorie générale de l'humanité? Est-ce qu'on peut le considérer comme ça?
Écoutez,
c'est son ambition.
Il y a une réponse simple. Quand il invente le terme en 1896, il dit d'ailleurs à Fliess dans une lettre, tu dois me dire si j'ai raison d'appeler comme ça cette partie de la psychologie qui va méta. Alors, méta, vous voyez, ça peut
au-delà.
À côté, etc., du conscient. Et le principe est simple. La psychologie classique, académique, pour Freud, ne peut pas avaler l'inconscient. Donc, si on prend en compte l'inconscient qu'on introduit dans la psychologie, elle devient une métapsychologie.
Mais formaliser la psychanalyse en métapsychologie, est-ce que c'est une ambition systématique et une volonté pour lui, finalement, d'installer une théorie universellement valable?
C'est quand même, comme il le dit en 1915, on va y revenir sans doute, parce qu'en 1915, après avoir créé le terme, après l'avoir utilisé dans Psychopathologie de la vie quotidienne, c'est en 1915 qu'il emploie le terme de système de connaissances. Oui, il y a une objectivité systématique ou systémique des connaissances. Mais il y a un symptôme très, très frappant. Freud était persuadé qu'il ne survivrait pas à la Première Guerre mondiale. Et il a pensé que c'était le moment de faire une sorte de testament qui était un traité qui serait une grande métapsychologie, avec 12 essais. De ces 12 essais, nous en reste que 4, sur l'inconscient, le refoulement, deuil et mélancolie en fait partie dans une certaine mesure, les pulsions et destins des pulsions. Il s'arrêtait parce que l'heure n'était pas venue de conclure. Donc d'un côté, c'est l'objectivité d'un système, oui, mais de l'autre, c'est un système qui reste ouvert. Il y a une image très jolie qui donne à la fin de sa vie dans l'analyse finie infinie, c'est que, voilà, nous devons d'abord obéir à la clinique. Nous ne devons pas faire de théorie, dira Freud à Ferenczi, mais les théories s'invitent chez nous, pendant que nous sommes occupés, n'est-ce pas, avec la clinique. Voilà. Et donc, il y a un moment où, dans la clinique, on ne peut plus avancer si on ne consulte pas la sorcière. Et la sorcière, c'est la métapsychologie. La sorcière au sens de Macbeth, la sorcière qui vient au moment où il faut, ou bien chez Faust. Enfin, c'est-à-dire, c'est intéressant, hein, c'est la femme supposée savoir. Et donc, d'un côté, il y a une objectivité, de l'autre, c'est un moment. Et ce que je trouve extraordinaire chez Freud, c'est ce va-et-vient, où il ne perd jamais la boussole, si je peux dire, entre l'extrême singularité des faits cliniques et d'autre part, la nécessité d'une rationalisation, oui, il faut oser dire le mot, face aux cliniciens qui pensent que moins il y a de concepts, plus c'est de la vraie clinique. Le créateur de la psychanalyse n'est pas comme ça. Mais la sorcière, dit-il, a des renseignements peu détaillés.
On retrouve ce va-et-vient freudien, enfin on le retrouve, on l'a trouvé déjà. Oui. Dans l'interprétation des rêves, qui est une théorie d'un empirisme résolu, puisqu'il s'agit de prendre chaque rêve dans sa singularité, de l'inscrire dans la situation du rêveur, la situation qui précède l'instant du rêve, et d'en produire une interprétation fatalement inédite, singulière, novatrice, enfin nouvelle en tout cas. Et en même temps, l'interprétation des rêves est sous-tendue par une grille de lecture où il y a des corrélations symboliques.
C'est le chapitre 7.
C'est le fameux chapitre 7, voilà, c'est ça, dans lequel Freud montre que tel objet signifie telle chose par condensation ou déplacement.
Oui, une théorie de l'appareil psychique.
Mais justement, l'interprétation des rêves, cette expérience singulière, ce poème finalement de rêve, se double d'une grille, d'une ambition systématique, et puis d'un dogme qui est que chaque rêve est l'accomplissement d'un désir.
Et c'est pas un dogme, c'est un axiome induit, si je peux dire. Voilà. Et bien sûr, c'est la réalisation, entre parenthèses, déguisée d'un désir refoulé.
Oui, on est d'accord.
C'est l'axiome.
On est d'accord, mais précisément, voilà, c'est pour ça que j'en parlais comme d'un dogme à dessein, puisque dans le texte dont on va parler, au-delà du principe de plaisir, il revient sur cette idée. Il voit dans ce qu'il dit de la pulsion de mort la possibilité d'une exception à la théorie selon laquelle chaque rêve est l'accomplissement d'un désir.
Exactement. Voilà, je crois que vous avez situé le côté révolutionnaire de cet opuscule, il l'appelle d'ailleurs comme ça. Il faut rappeler quelque chose. En 1911, était paru un petit texte qui s'appelait « Formulation sur les deux principes de devenir psychique » dans lequel il distinguait le principe de plaisir et le principe de réalité. Distinction fameuse. Vous remarquerez que le mot « principe de plaisir » n'était pas dans le titre. Par contre, en 1919, huit ans après, il fait cette révolution métapsychologique, mais le mot « principe de plaisir » figure. Alors, c'est ça que je trouve assez symbolique, c'est-à-dire Freud prononce ce terme de « principe de plaisir » pour ajouter que ce principe de plaisir a un au-delà. Pour aller très vite, enfin...
Commençons peut-être par le titre, d'ailleurs, Paul-Laurent Hassoun. Au-delà du principe de plaisir, je lis ça, formation philosophique, j'entends la parole de Nietzsche. Oui. Par-delà bien et mal.
Oui, parce qu'il y a cette conjonction jenseits en allemand. Alors, voilà, il y a un malentendu. Là, sur cette notion jenseits, au-delà, nous fait penser évidemment à quelque chose de plus ou moins transcendant. Comme si on allait quitter l'immanence du principe de plaisir, pour être dans cet au-delà. Jenseits en allemand n'a pas forcément ce sens transcendantal, si je peux dire. Une image très simple, c'est quand on change de rivage d'un fleuve. Il y a ce qui est en deçà, diesseits, et ce qui est au-delà. C'est ça le
on
principe.
On n'est pourtant pas plus élevé, on est juste sur l'autre berge.
Voilà. Donc ce n'est pas une
vous
sorte...
Vous voulez dire que l'au-delà peut être un en-deçà
Oui, vous voyez, reprenez le... C'est une dérive. C'est une dérive. Il y avait un commentaire assez intéressant de Lyotard à une certaine époque sur le mécanisme de la dérivation métapsychologique chez Freud. Ça, je trouve que c'était très proche de la psychanalyse. Quand vous changez de rive, c'est pas rien. C'est une dérivation avec tout ce que ça implique de réorientation. Mais il ne s'agit pas d'un décollement, quoi qu'il y ait une spéculation très forte dans ce texte. Voilà. Alors, l'idée basique, c'est que Freud pensait, je dis tout de suite qu'il ne renoncera pas en partie à cette idée, que tout le fonctionnement psychique, et notamment inconscient, est ordonné au principe de plaisir. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que l'appareil psychique cherche à éviter le déplaisir. Le freudisme n'est pas un épicurisme, même dans sa première forme. Il ne s'agit pas d'une sorte de conatus, de penchant à réaliser le plaisir en tant que tel.
Ce que vous désignez comme conatus ici, c'est le mot de Spinoza qui désigne la tendance qu'a chaque individu à persévérer dans son être.
Persévérer dans son être.
C'est le mot, il faut le dire pour l'auditeur qui n'a peut-être pas cette terminologie en tête, c'est le mot qui désigne un système... positif, empreint de positivité. C'est-à-dire, quand on parle de conatus en général, on évoque un système, comme c'est le cas dans l'éthique, où la négativité n'a pas sa place. Or, ce qui se passe dans au-delà du principe de plaisir, d'ailleurs, qu'on désigne en général rapidement par le principe de plaisir, ce qui se passe, c'est que Freud substitue la seule réduction de nos actions au principe de plaisir, l'idée d'un conflit fondamental entre une pulsion de vie et une pulsion de mort, donc un dualisme.
Mais voyez, je souligne déjà que rien qu'au niveau du principe de plaisir, il ne s'agit pas, comme vous le dites, de tendre à une positivité qui est le plaisir, mais à rétablir un équilibre de régulation. C'est d'ailleurs le principe de plaisir-déplaisir, éviter le déplaisir. D'ailleurs, l'idée de Freud, d'emblée, c'est que la machine psychique tend à réduire l'excitation au moindre niveau, mais du côté du plaisir. C'est curieux, parce que la psychanalyse met l'accent sur la sexualité, c'est le moins qu'on puisse dire, qui suppose une excitation et une montée de l'excitation. Mais l'appareil psychique tend à se réguler d'après le principe de plaisir. Alors, la révolution de 1919...
Hein, vous diriez révolution?
Oui, c'est une révolution métapsychologique. Vous voyez, dans la jeunesse, c'est très intéressant. Freud pensait, comme je le disais tout à l'heure, écrire une somme métapsychologique. Et puis, elle se fait attendre. Lou Andréa Salomé s'impatiente vers 1919. Elle lui dit, alors, où est-ce qu'on en est, cette grande métapsychologie? Et à ce moment-là, il dit, elle n'existe pas. Il a arrêté, plus exactement. Enfin, il y a de magnifiques restes de cette somme, mais il arrête. Et qu'est-ce qui paraît? C'est l'au-delà. Autrement dit, l'au-delà du principe de plaisir est un moyen de reprendre la question métapsychologique en la décalant vers, un univers nouveau. Qu'est-ce que c'est que cette mutation? Je pense qu'on va en parler, on va la détailler.
Oui, on va en parler, mais encore quand même un point peut-être liminaire.
Oui.
Que vaut la Vulgate, selon laquelle, ce serait non pas la mort de sa fille, mais tout simplement l'épisode de la Première Guerre mondiale, qui aurait invité Freud à sous-tendre ce qu'il dit du plaisir par le conflit de la vie et de la mort. Et que vaut cette idée, finalement, pour
bien entendu, le chercheur est sous l'influence de ses effets
l'empiriste,
subjectifs.
Celui qui se laisse convaincre, finalement, par des phénomènes qui contredisent peut-être une théorie première.
Je vais vous dire, la Première Guerre mondiale, pour Freud, ça a été une très grande épreuve personnelle, très grande épreuve, vraiment avec une crainte de survie même personnelle, de sa famille, et puis les deuils à répétition, c'est pas rien. Mais par contre, une réponse très clinique. Ce que la Première Guerre mondiale a livré à Freud, c'est les névroses traumatiques. Car la Première Guerre mondiale, avec tout son traumatisme de masse, est revenue à créer, à attirer l'attention sur les névroses traumatiques, qui sont le premier élément clinique qu'il met en avant. Oui.
C'est-à-dire que l'élément psychique apparaît pour Freud le moment où les individus rejouent à l'infini la blessure qui a été la leur pendant la guerre.
Ben oui. C'est-à-dire que le trauma apparaît comme une effraction du tissu psychique, ce qu'il appelle dans ce texte pour la première fois le par-excitation. On va sans doute en reparler, mais il se représente le psychisme comme faisant partie du vivant, de la vésicule vivante. C'est pour ça qu'il y a dans ce texte de Freud une spéculation biologique à un moment donné, pour expliquer...
Le mot de vésicule revient tout le temps.
Voilà. C'est cette espèce de boule protoplasmique, enfin vivante, qui a une partie externe et interne. La partie externe cherche à se protéger contre les excitations qui viennent de l'extérieur. Vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'un trauma, mécaniquement? C'est l'extrême montée d'une excitation sous l'effet d'un agent agresseur. De telle sorte que le psychisme ne peut plus contrôler le flux d'excitation. Hein. Si d'un moment à l'autre, vous êtes confronté à un événement nouveau et fractif, votre entreprise psychique fait faillite, dira Freud dans un autre de ses textes.
C'est là qu'il parle du rétablissement de la vieille théorie du choc.
Oui, alors, la théorie du choc... Disons plutôt que l'ancienne théorie du choc mettait l'accent sur l'ébranlement mécanique de l'extérieur. Tout l'effort de Freud, ça a été de montrer que l'ébranlement mécanique n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait dans l'effet constitutionnel du sujet, pas au sens de l'hérédité, mais dans le dedans, quelque chose. Par exemple, quel exemple? Le sexuel est en soi effractif. Même s'il n'y a pas d'effraction avec agression réelle, en soi, la confrontation du sujet au sexuel est une effraction. Je crois que c'est l'un des grands constats de la psychanalyse. Hein. Donc, Freud a réfuté la théorie du choc. Mais, c'est vrai que sous l'effet de cette nouvelle théorie, on va avoir, non pas un retour à la théorie du choc, mais une réflexion sur le rapport entre le dehors et le dedans. Voilà.
Mais alors, ce qu'il appelle la théorie du choc, quand il dit « on rétablit la vieille théorie du choc », est-ce que Freud revient, j'allais dire, à ses premières amours, c'est-à-dire au moment, début des années 90, quand il travaille il essaie d'élaborer une étiologie des névroses qu'il a sous les yeux, des difficultés qu'il constate, et il élabore à ce moment-là la théorie à laquelle il renoncera ensuite, de la séduction infantile, en somme l'idée que tout enfant traumatisé a été d'abord séduit par ses parents.
Vous avez raison de noter que Freud avance, il change beaucoup. La preuve, aujourd'hui, on parle d'un grand changement. Mais il récupère toujours les étapes antérieures.
Hein, et il récupère également une étape qu'il a abjurée. Enfin, un moment auquel il a renoncé, non ?
Oui, alors, c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'au fond, toute la théorie de Freud, c'est de penser contre l'idée que le traumatisme sexuel serait une fiction, une façon de parler, la réalité même de l'effraction. Voilà. Il y a un réalisme de la séduction, contre Jung notamment. Hein. Mais Jung est dépassé en 1919, mais il y a toujours cette idée-là. Par contre, n'oublions jamais que pour lui, il y a un dedans considérable qui est le fantasme. Le petit Oedipe dont il nous parle, de toute façon, il est effracté par le sexuel. Voilà. Donc, il ne revient pas réellement à cette question, puisque le dedans est toujours déterminant. Mais le point très important, je crois, c'est l'idée de répétition. Le fait que la répétition fait trace. Et Freud constate dans sa clinique, qu'on va peut-être pouvoir détailler, au fond, des faits troublants, des faits cliniques. C'est pour ça que quand Wittels dit que brusquement il était angoissé par la mort et qu'il a changé sa théorie, au fond, c'est pas très respectueux pour le chercheur Freud, parce que Freud a plutôt l'impression depuis de nombreuses années qu'il y a une tendance mystérieuse du psychisme, qu'on va voir dans le masochisme, dans les névroses traumatiques, dans les névroses de destinée, une tendance curieuse de la psyché à répéter le déplaisir. Or, ça, c'est contradictoire avec sa propre théorie. Si Freud était mort avant 1919, au fond, on aurait eu cette version, au fond, du principe de plaisir dominant. Avec courage, presque avec provocation, hein, parce que c'est un traumatisme pour les analystes à qui on annonce maintenant qu'il y a un au-delà du principe de plaisir. Et il va essayer d'intégrer cette tendance, ces tendances mystérieuses qu'il trouve au travail dans la clinique.
Un instant encore sur Oedipe. Est-ce que la pulsion de mort n'était pas déjà à l'œuvre dans le mythe d'Oedipe, dans la construction du mythe d'Oedipe ou dans l'interprétation qu'il en donne ?
Oui, c'est une chose de le trouver dans le tableau, dans le paysage, c'est une autre chose de l'extraire comme concept proprement métapsychologique. Hein ?
La situation mérite attention, mon enfant. On n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments, mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent dans leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa.
Alors on a vu, Paul-Laurent Hassoun, tout à l'heure, que au-delà du principe de plaisir, ça ne signifiait pas qu'on était dans un rapport de transcendance à l'endroit du principe de plaisir. Oui. Il ne s'agit pas d'un au-delà, mais il s'agit d'un à côté, peut-être, du principe de plaisir, qui serait la pulsion de mort. En quoi consiste-t-elle ? Comment la caractériser, la repérer et la définir ?
Alors, si on examine rapidement l'argumentation très serrée de ce texte, on s'aperçoit que Freud commence par rappeler le principe de plaisir. Il montre qu'en même temps, il y a un certain nombre de faits troublants. Dans l'ordre, d'abord les névroses traumatiques. Qu'est-ce qui se passe dans les névroses traumatiques ? Que le sujet soit traumatisé, qu'il cherche à répéter pour se débarrasser d'expériences traumatisantes, c'est encore dans l'ordre du principe de plaisir. Mais que le sujet répète sans fin. Et Freud se met à soupçonner qu'il y a, disons-le comme ça, en psychologisant un peu, une complaisance dans la répétition.
Ce sont les fameuses images d'archives où on voit des soldats de la Première Guerre mondiale reproduire voilà. Le même geste à l'infini.
Exactement, voilà. Alors, à ce moment-là, il se met à nous parler d'un jeu d'enfant. Hein.
Oui.
Ce jeu d'enfant très particulier, c'est celui de son petit-fils, Ernst Wolfgang, qui n'est autre que le fils de cette Sophie qui mourra prochainement. Enfin.
Sa chair, son éblouissante Sophie, ça c'est quand même extraordinaire, parce qu'il parle
de
du fils de quelqu'un qui va mourir, dont il ne sait pas qu'elle va mourir à l'instant où il écrit ce texte, et il parle de la façon dont cet enfant réagit à l'absence de sa mère.
Alors comment est-ce qu'il réagit ? Cet enfant ne parle pas encore, cet enfant n'exprime pas facilement ses émotions, mais Freud, son grand-père donc, remarque, Freud continue à faire de la clinique donc en famille, Freud remarque que chaque fois que cette mère aimée s'en va, l'enfant qui ne peut pas se plaindre se lance dans un jeu. Avec quoi ? Avec une sorte de petite bobine de bois qui lance sous le lit, enfin je le résume, il lance sous le lit cette bobine, de telle sorte que cette espèce de jouet improvisé, il est le plus grand mal à la récupérer. Alors, comme il ne parle pas encore, il dit « forte » en aimant « forte », c'est quand on lance quelque chose, ou c'est là-bas en gros. Mais il dit seulement « haut, haut, fort hein ». Et ensuite, après faire un effort considérable pour récupérer cette bobine, avec un grand sentiment de satisfaction, il dit « Da, ici, voilà ». Ce va-et-vient, et il recommence. Et il recommence. Alors, la bobine, c'est la mer. Chaque fois que la mer s'en va, il la jette, si je peux dire. Il la jette. Mais il se met dans une situation de déplaisir. Au fond, tout jeu, et peut-être, c'est paradoxal un jeu, hein, on se met dans une situation d'embarras, justement pour répéter quelque chose qui, à la fin, devient un plaisir. Alors, Freud...
Voici le oui. texte pour l'auditeur, comme ça il l'aura bien en tête, parce que c'est un exemple très très important. Oui. Et d'ailleurs, c'est un exemple à partir duquel on sent que Freud se donne les moyens de penser le soldat blessé à la guerre, bizarrement. Voilà. Il faudrait essayer de comprendre l'articulation des deux. Le texte dit ceci. L'enfant n'était nullement précoce dans son développement intellectuel. À un an et demi, il ne disait encore que peu de mots compréhensibles. Et il disposait à part cela de plusieurs sons pleins de significations que l'entourage comprenait. Il avait toutefois un bon rapport avec ses parents et l'unique servante et était loué pour son caractère raisonnable. Il ne dérangeait pas ses parents la nuit, il suivait consciencieusement les interdictions de toucher maints objets et d'entrer dans certaines pièces. Et surtout, il ne pleurait jamais quand sa mère le quittait pour des heures, bien qu'il fût tendrement attaché à cette mère, qui n'avait pas seulement nourri elle-même l'enfant, mais qui sans aucune aide étrangère avait pris soin de lui et s'en était chargée. Or, cet enfant gentil avait l'habitude, dérangeant à l'occasion, de lancer loin de lui dans un coin de la chambre, sous le lit, etc., tous les petits objets dont il se saisissait, si bien que ce n'était souvent pas un travail facile de chercher et rassembler tous ses jouets. En même temps, il émettait avec une expression d'intérêt et de satisfaction un « oh » sonore et prolongé, qui, selon le jugement concordant de la mère et de l'observateur, n'était pas une interjection, mais signifiait « forte ». Je remarquais finalement que c'était là un jeu et que l'enfant n'utilisait tous ses jouets que pour jouer avec eux à Pforzheim.
Voilà. Alors, l'enfant freudien apparaît là. Ce n'est plus l'enfant
oedipien. Pforzheim, c'est être parti. Hein.
Voilà. C'est plus l'enfant simplement oedipien qui est en conflit entre sa pulsion et son désir. C'est un enfant qui est là sous l'effet de la répétition, de la compulsion de répétition. Alors là, Freud va donner toute une série de faits. Alors, il y a les névroses traumatiques, il y a les jeux compulsionnels qui dénotent un rapport traumatique à la mère, à la séparation, mais il y a aussi les névroses de destinée. C'est un point très important. Vous avez des gens qui se replacent sans arrêt dans les mêmes situations déplaisantes, qui après se plaignent de répéter, par exemple, des bienfaiteurs trahis, des amis qui s'en vont. Toujours les... on entend ça dans l'analyse. Hein. Pourquoi est-ce que je tombe toujours, on dirait maintenant, sur les mêmes galères hein. Alors, on pourrait dire tout simplement...
Pourquoi est-ce que je rencontre toujours le même genre d'homme ou le même genre de
exactement.
Femme ? Pourquoi est-ce que je reproduis à l'infini ce schéma-là ? En fait, c'est toute la clé, enfin la première figure de cette aptitude que l'on a à se nuire en permanence, ou à reproduire quelque chose, se trouve dans ce texte.
Voilà. C'est ce que Fernberg, dans l'analyse très loin de Freud d'ailleurs, appelait justement le surmoi comme saboteur interne. Alors... Freud pourrait très bien dire que c'est simplement une économie du principe de plaisir, la difficulté de la réalité, parce que la vie est cruelle hein, en elle-même. Mais ces sujets-là ajoutent une sorte de... Alors, j'ai prononcé un mot très important du point de vue de Lacan, qui part de ce texte aussi, une jouissance. Comment appeler un déplaisir qu'on répète systématiquement ? C'est pas un plaisir, mais ça satisfait.
Mais excusez-moi, en quoi est-on au-delà du principe de plaisir si cette répétition déplaisante est en elle-même une satisfaction ?
Eh bien, parce que...
Pascal dit, hein, tous les hommes cherchent le bonheur, même ceux qui vont se pendre. Quelle différence ici entre la position freudienne et l'idée qu'en somme, il n'y a pas d'au-delà du principe de plaisir, puisque même ce qui déplaît et qu'on reproduit, on le reproduit par plaisir.
Alors c'est là où la métapsychologie nous est utile, elle est technique mais utile. Le principe de plaisir proprement dit, pur, réduit le plus possible la tension, tandis que cette forme de comportement... Ça ouvre toute une clinique hein, qui va au-delà des névroses traumatiques, des névroses de destinée, comme il dit, etc. Il y a la recherche d'une montée de l'excitation déplaisante qui, compulsionnellement, réintroduit une satisfaction d'un autre ordre. Alors, dans sa conclusion, j'anticipe sur la conclusion, Freud dit bien...
Allez-y, il n'y a pas de suspense.
Voilà. Le principe de plaisir n'est pas destitué. Ça ne veut pas dire que 24 heures sur 24, toute notre vie est ordonnée à l'au-delà du principe de plaisir. Mais le principe de plaisir est un drôle de principe. Je dis parfois dans certains de mes cours, un drôle de loustique, le principe de plaisir. Parce que d'un côté, il fait son travail de réduction du déplaisir. Ça, c'est son travail normal. Freud dit bien à la fin que la tendance sourde du psychisme, c'est quand même le principe de plaisir. C'est là où ce n'est pas une transcendance. Voyez. Par contre, il y a une fonction Et c'est là où on va trouver la pulsion de mort. Hein. C'est un texte assez vertigineux, parce que Freud, à partir d'une clinique extrêmement concrète, peut-être travaillée par ses deuils, mais vous voyez qu'on va quand même dans une recherche qui touche à l'universel, hein. Eh bien, il va supposer qu'après tout, il pourra en rester là, hein. Après tout, voilà, c'est des comportements paradoxaux. Hein. Il avait déjà repéré des gens qui, par exemple, tombaient malades quand ils réussissaient quelque chose, ceux qui échouent par le succès. Alors, il va aller plus loin. C'est les tendances, mystérieuses tendances masochistes du moi. Hein. Et tout ça...
Énigmatique tendance masochiste du moi. Voilà. Oui, c'est l'expression qu'il emploie.
Eh bien, le masochisme, c'est un drôle de sujet. Prenez un masochiste pervers.
Il dit ceci, hein. Les malades de névrose traumatique ne s'occupent guère pendant la vie de veille du souvenir de leur accident. Peut-être s'efforcent-ils plutôt de ne pas y penser. Si l'on admet comme allant de soi que le rêve nocturne les replace dans la situation qui les a rendus malades, on méconnaît la nature du rêve. Il serait plutôt conforme à celle-ci de présenter au malade des images du temps de sa bonne santé ou bien de sa guérison espérée. Si, concernant la tendance du rêve à l'accomplissement de souhaits, nous ne voulons pas nous laisser désorienter par les rêves des névrosés du fait d'accidents, il nous reste encore peut-être l'expédient de nous dire que dans cet état, la fonction du rêve, tout comme bien d'autres choses, a été ébranlée et déviée de ses visées, ou alors il nous faudrait nous rappeler les énigmatiques tendances masochistes du moi.
Oui.
Énigme en soi de l'expression.
Oui, oui. Voilà, alors vous notez aussi au passage, parce que c'est tous les points, toute la clinique freudienne est touchée par cette histoire-là, les rêves. Certes, le rêve est la réalisation d'un désir, on revient à notre discussion tout à l'heure, mais il y a des rêves qui réussissent à désorganiser, hein, le principe de plaisir. Il faudrait avoir le temps, hein, de distinguer les rêves de désir, les rêves d'angoisse.
On l'a fait avec Laurence Kahn.
Très bien.
Mardi dernier.
Donc. Mais il y a des rêves qui sont, je simplifie, des cauchemars, ou plus exactement des rêves traumatiques purs, où le principe de plaisir est déréglé. Vous faites un cauchemar, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez plus continuer à rêver. Le rêve est toujours un compromis entre la censure et le plaisir. Mais sous l'effet d'un trauma, dans des conditions cliniques qu'on n'a pas le temps de détailler, mais enfin, le rêve éclate. Qu'est-ce que vous faites quand vous rencontrez cette tendance extrêmement déplaisante? Vous vous réveillez.
En somme, ce que Freud décrit, au-delà du principe de plaisir, c'est l'éruption du monde extérieur dans la psychanalyse. Ce que je veux dire, c'est que bien souvent, on avait le sentiment que, en gros, pour le dire, pour employer une métaphore, chez Freud... C'est pas parce qu'il y a des problèmes d'héritage que les héritiers se détestent, c'est parce que les héritiers se détestent qu'il y a des problèmes d'héritage. On avait l'impression chez Freud qu'en somme, les mécanismes qu'il décrit sont des mécanismes endogènes, presque autonomes, presque indépendants des rencontres qu'on peut faire. Et qu'avec, au-delà du principe de plaisir et la modification de son système qui s'ensuit, c'est l'irruption du monde extérieur, c'est-à-dire la part d'une expérience immaîtrisable dans l'appareil psychique.
Mais... En un sens, oui, en un sens, non. Je dirais presque en un sens, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que Freud, c'est hyper endogène, ça. D'un côté, il y a quelque chose qui...
Le soldat qui revient du champ de bataille, il n'a pas fait exprès de prendre du gaz moutarde, si vous voulez, d'être traumatisé par lui.
Oui, mais alors, c'est là où il faut bien comprendre la théorie freudienne, la deuxième théorie freudienne du traumatisme. L'irruption du réel, et là, vous avez raison, le réel c'est une théorie du réel qui apparaît, met en mouvement là, une tendance mystérieuse, originaire, du psychisme. Alors, il faut évidemment en dire deux mots. Pourquoi? Là, on peut vraiment comprendre la pulsion de mort. Vous voyez, certains disent, Freud veut nous faire avaler la pulsion de mort. C'est un résultat de toute la réflexion clinique qu'on a évoquée. Alors là, il se lance dans une spéculation biologique à la lueur de la clinique analytique. Et il nous dit, après tout, il y a le problème d'origine de la vie, hein, simplifions. Comment est-ce que la vie est née? Et Freud rappelle que la vie est sans doute née, dans la première cellule vivante, d'un bref intervalle entre deux états de mort. Et pour aller vite, n'est-ce pas, il y a une époque où la vie avait la mort facile, quoi. Voilà, c'est une formule qui résume bien les choses.
Et il y a une époque, on avait 8 enfants, on pouvait en perdre 3, c'était moins grave.
Oui. Alors, c'est cette marque de la mort dans la vie qui a des conséquences sur la psyché. Et si vous voulez, on peut le dire autrement, l'inorganique laisse sa trace dans l'organique. Hein. C'est-à-dire, l'organique, c'est le vivant, c'est le renouvellement. Alors, Freud dit bien, ça c'est très important, c'est l'éros. C'est l'éros, c'est la fin. Alors, il faut rappeler là, c'est très important, que pendant longtemps, Freud a présenté les deux classes de pulsions fondamentales comme étant la faim, F-A-I-M, évidemment, les pulsions d'autoconservation, et d'autre part, les pulsions sexuelles. Et pour lui, le conflit central, parce qu'il avait toujours besoin d'une théorie du conflit central, se jouait entre les pulsions du moi, vous voyez, quand j'ai faim, je pense à moi. La sexualité, c'est toujours l'objet, l'éros. Alors, il va unifier...
C'est quand même intéressant parce que c'est le... Allez-y, pardon.
Oui, oui. Il va unifier donc les pulsions de faim, du moi, et sexuelle, sur la base aussi de tout ce qu'il dit sur le narcissisme. Enfin, tout ça, ça va faire l'éros, les pulsions de vie. Et en face, on a cette mystérieuse pulsion, qui est la pulsion de mort, avec cette idée que si la mort originaire laisse des traces dans la vie, ça se manifeste dans la psyché, par la tendance, alors c'est là où il faut suivre sa spéculation, il dit d'ailleurs, à partir de maintenant, entre le chapitre 4 et le chapitre 6, il est dans la spéculation, hein, mais une spéculation nécessaire, hein, évidemment, assez passionnante. C'est-à-dire qu'au fond, la mort chercherait, l'inorganique chercherait à se réintroduire dans la psyché, ce qui veut dire qu'il y a une fascination, disons-le de façon plus immédiate, il y a une fascination de la psyché pour la répétition brute. Vous retrouvez ça dans la toxicomanie. Comment est-ce que le sujet peut répéter, certes, il y a tout un background derrière, mais comment est-ce qu'un sujet peut vouloir sa mort? Et je vais donner un exemple très simple actuel, le tabagisme. Hein. Vous mettez sur un paquet de cigarettes, nuit gravement à la santé, attention, votre vie est menacée. Le sujet, certes, peut se réveiller à cette menace, mais s'il s'empoisonne, c'est justement parce qu'il ne peut pas supporter la vie. Donc, le menacer d'un danger de mort, vous voyez, c'est quelque chose qui ne prend pas, n'a pas d'impact sur lui. Sauf si le rapport entre pulsion de vie et pulsion de mort se réaménage.
D'un point de vue, pour bien comprendre ce que vous dites, Paul-Laurent Hassoun, d'un point de vue strictement freudien, le fait de fumer, par exemple, serait l'une des expressions qui permettrait de comprendre le mécanisme de la pulsion de mort, c'est-à-dire, pour résumer ce que vous dites, le fait que cette espèce de dérivation du besoin biologique de tout organisme de retourner à son état initial inorganique.
Oui, alors d'abord...
On pourrait comprendre le fait de fumer dans le cadre de ça.
Freud ne donne pas cet exemple, mais vous savez que Freud est un très grand fumeur et que ça lui a coûté cher. Bon, évidemment, son cancer est lié à ça, j'ai parlé du tabagisme. Je parle en général de ce qu'on appelle les addictions, les dépendances.
Non, mais restons sur le tabagisme. C'est une addiction qui est commune à beaucoup de
On peut le dire de façon humoristique. Hein. Quand on fume, on veut enfumer le par excitation. Voilà. Alors, je m'explique un peu. C'est-à-dire que quand le sujet est sous la pression, mettons, on dirait un stress, etc. C'est-à-dire des notions qui n'expliquent plus rien, au fond. Hein. On veut plus de l'angoisse, on met le stress à la place, etc. Mais voilà. Je parle du grand tabagisme. Il y a une nécessité à un certain moment, n'est-ce pas, de réguler l'excitation, hein, et de faire monter l'excitation. Toutes les dépendances supposent une montée d'excitation. Par exemple, dans le tabagisme, l'excitation de la muqueuse buccale. Hein.
Paul-Laurent Hassoun, pardonnez-moi, mais fumer est un plaisir. Un plaisir infini, un plaisir sans égal. Alors, c'est un plaisir coûteux, mais c'est un plaisir. Et pourquoi ne pas considérer que le fumeur ferait le pari, mettrait d'un côté de la balance le fait que la cigarette est une suspension divine, hein, qui met le sablier à l'horizontale, en somme, et que le temps d'une cigarette, le temps se suspend, comme dirait Lamartine, que par ailleurs c'est un plaisir infini et que ça stimule la réflexion, et de l'autre côté, le fait que ça raccourcisse la vie, que ça provoque des inconvénients, des douleurs infinies, qui, pour l'heure, demeurent abstraites au fumeur, car il n'en a pas encore fait l'expérience. Mais en quoi y a-t-il de la pulsion de mort derrière ça?
Alors, vous faites un éloge du tabac, un peu comme au début du Don Juan de Molière, vous savez, il y a cet éloge du tabac. Tout à fait. Mais, il faudrait parler longuement de cette espèce de dialectique qu'il y a entre cette satisfaction de plaisir et ce rapport compulsionnel qui fait que le plaisir ne se satisfait jamais. Oui. Et que dès lors, le sujet... Alors c'est peut-être une manière...
La pulsion de mort, ce serait la répétition, finalement, voilà. du fait de fumer.
Voilà. Et disons-le comme ça, l'amour de la répétition. Hein. Voilà. Et c'est cet amour de la répétition que Freud, de façon audacieuse, met en rapport avec la trace de cette tendance à restaurer un état antérieur.
Mais pour
un nirvana, vous voyez.
Mais pour un fumeur, il y a aussi de la répétition dans le fait d'arrêter de fumer, puisque chaque cigarette qu'il ne fume pas, il répète le geste de ne pas fumer.
Mais à ce moment-là, il jouit du manque. Vous voyez, prenez une anorexique. Alors, vous voyez, on peut parler de beaucoup d'autres cliniques que Freud ne note pas. L'anorexique ne mange pas. Lacan a raison de dire, c'est pas vrai, elle mange le rien. Et dès lors, ce dont elle se prive, c'est une manière... Vous voyez, il y a des moments où vous sentez... La pulsion de mort, je dois le dire, on ne la rencontre jamais directement. Je voulais dire, ça c'est très important, que la pulsion de mort chez Freud n'est pas quelque chose d'entièrement négatif ou d'entièrement démoniaque. Le désir humain lui-même, c'est un tissage de pulsion de vie et de pulsion de mort. C'est pour ça que c'est une notion qui est difficile aussi à manier. Dans l'érotisme, si je peux dire, normal, souhaitable pour la psychanalyse, on a bien des petites morts. un sujet qui serait toujours dans la vie, toujours identique à lui-même, toujours heureux, il ne désirait pas. Dès qu'il y a du désir, il y a de la négativité, donc il y a de la mort. Alors, ça ouvre une question très difficile, hein, très difficile, que Freud ne conclut pas, c'est le dosage entre les pulsions de vie et les pulsions de mort.
Ikusa
parler d'un dosage entre oui. la pulsion de mort et le plaisir, ou la pulsion de mort et la pulsion de vie.
Oui.
Ce dosage, cet équilibre, là encore, Freud le pensait-il avant d'écrire Au-delà du principe de plaisir, ou bien l'idée d'un dosage entre ces deux tendances apparaît-elle avec ce petit opuscule ?
Alors, vous voyez, c'est très difficile à, au fond, à se représenter concrètement. C'est
en
comme
somme,
si...
est-ce avant ou après la Première Guerre mondiale, c'est pour le dire autrement.
Ben, toute sa théorie des pulsions, comme je l'indiquais tout à l'heure, et revient à une théorie de l'alliage, vous voyez, union des unions. C'est très curieux, ça fait presque penser au pré-socratique, vous voyez, c'est-à-dire cette idée des éléments premiers. Sauf que Freud dit bien dans ce texte, d'ailleurs, que rien n'est plus subjectif que ça. On peut multiplier les pulsions, etc. Donc Freud essaye d'avoir une théorie économique des pulsions. Il lui faut une théorie du conflit fondamental. Par exemple, Jung était toujours moniste. Hein. Freud est toujours dualiste, parce que c'est une théorie de la conflictualité. Alors, la question, c'est évidemment les tensions et les alliages. Hein. Il y a des moments où le moi et l'érotique sont en bon terme. Il y a des moments où ils sont, si je peux dire, à couteau tiré. Et à ce moment-là, vous avez la problématique névrotique. Voilà, pour aller très vite. De même, si je peux dire, il y a un alliage. C'est pas simplement un bon équilibre, n'est-ce pas ? Comment est-ce que je pourrais le dire ? Au fond, quand Eros se sert de Thanatos comme aiguillon, si je peux dire, il se sert d'Eros comme négativité du désir, et que ça revient à Eros, eh bien, Thanatos travaille au service d'Eros. Si, par contre, Thanatos prend le pouvoir, hein, si, voilà, j'ai l'habitude de dire comme ça, si Thanatos fait un putsch contre Eros, à ce moment-là, le sujet se met directement à jouir de la mort et de la répétition pure. Voilà. Et c'est un point très important. C'est un peu le viva la muerte, voilà. Viva la muerte, c'est-à-dire la mort elle-même devient entièrement érotisée. Voilà. Et c'est ça qui est déterminant. D'ailleurs, sans vouloir compliquer les choses, le masculin et le féminin se jouent ici. Hein. Freud n'hésite pas à dire que la femme, à l'origine en tout cas, est du côté de l'éros, et que si les hommes étaient seuls entre eux, ils se détruiraient.
Hein. Dans le... Vous avez parlé des pré-socratiques, on peut évoquer la figure des néo-platoniciens. Au IIIe siècle, Plotin élabore un système qui est un monisme de la vie générale, où toute réalité est subordonnée au bien, à l'imbien, qui lui-même n'est pas transcendant, puisqu'on le retrouve de façon immanente dans toute chose, hein, le principe de singularité. Et puis Plotin est quand même confronté à la question du mal, et au fait que c'est un commentateur de Platon qui, lui, est un dualiste.
Oui.
Et confronté à la question du mal, de temps en temps, Plotin dit que le mal n'est rien de négatif, mais qu'il est une espèce de dommage collatéral du fait que une âme, au lieu de regarder au-delà d'elle-même, se contemple elle-même. En somme, le mal est un effet du narcissisme.
Mm-hmm.
Il cite d'ailleurs l'exemple de Narcisse. Il ne le donne pas nommément, mais il parle de celui qui se regarde dans l'eau et qui plonge dans l'eau fasciné par son reflet.
Oui.
Expliquant que le mal, c'est en somme l'attitude d'une âme qui se tord, qui se replie sur elle-même, au lieu de s'élever vers son principe.
Mm-hmm.
Et de temps en temps, il dit que, donc en somme, l'homme serait responsable du mal. De temps en temps, il y a d'autres textes de Plotin où il se contredit et où il pose une autonomie du mal qu'il identifie à la matière, dont il fait une espèce de principe actif qui viendrait tourner justement l'âme vers elle-même au lieu de faire en sorte qu'elle s'élève vers son principe. Donc il y a à la fois un dualisme et un monisme chez Plotin, et il se contredit souvent. Et il termine, c'est l'un de ses textes, je crois que c'est un des derniers textes qu'il écrit, par la comparaison du mal avec un esclave. Un esclave qu'on ne peut pas réduire, qu'on ne peut pas anéantir, mais qu'on aurait enchaîné dans des chaînes en or, et qui finalement resterait là, irréductible, indissoluble, mais malgré tout, ce brigand, hein, il parle d'un esclave, mais on peut penser ici à la figure d'un brigand, ce malfaiteur, serait lui enchaîné dans des chaînes dorées. Que vous inspire ce système, vous qui connaissez Freud ? Est-ce qu'on peut comparer les deux ?
On est quand même dans un tout autre domaine. Freud. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune fascination de Freud pour le monisme. Par contre, là, vous prononcez un terme qui mériterait d'intervenir, effectivement, dans la théorie de l'au-delà du principe de plaisir, qui est le mal. Peut-être, alors là, on pourrait associer aussi avec le mal radical conscient, enfin. C'est le principe de la négativité même, de la négativité pure, si je peux dire. Il dit bien que toute cette théorie mal est sombre, comme vous l'avez dit. Elle n'est pas pessimiste parce que c'est pas une question d'optimisme et de pessimisme. C'est plutôt quelque chose qui rapproche du réel. Vous savez, il dit à un certain moment à Pfister dans une lettre pour expliquer qu'il a introduit la pulsion de mort, qui a quand même angoissé pas mal, y compris des analystes. Il dit que ce qui l'intéresse, c'est pas quelque chose qui soit plus réjouissant ou plus accommodant pour la vie. Et c'est vrai que les gens, en général, cherchent quelque chose du côté du bonheur. C'est quelque chose qui nous rapproche du mystérieux réel existant hors de nous. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, c'est...
Ça, c'est la mort, ça n'est rien d'autre.
Hein. Voilà. Et c'est curieux de dire hors de nous, puisqu'en même temps, c'est de la psyché, c'est à l'intérieur. Mais c'est une théorie, effectivement, physique. La possibilité du mal comme... Parce que le mal, chez Freud, c'est pas simplement la question morale. Enfin, c'est la question de... Plutôt que le sujet puisse vouloir son mal. C'est ça le mystérieux masochisme.
Est-ce que le sujet peut vouloir son mal à la façon d'un homme qui se suiciderait parce qu'il aurait trop peur de mourir, finalement? Est-ce que le sujet peut vouloir son mal tout simplement parce qu'il se représente hors de lui, c'est-à-dire dans l'avenir, la perspective de sa propre mort?
C'est, alors, disons de façon plus concrète...
Quand on parle du traumatisme, oui. On pense à un soldat, par exemple, le vent du boulet, il a cru qu'il allait mourir. Oui.
Vous savez comment Freud explique le traumatisme parce que des névroses de guerre? Parce que c'est extrêmement dur pour tout le monde, la guerre. Pourquoi est-ce que certains sujets font une névrose et d'autres non? Eh bien, il dit, en s'appuyant sur Karl Abraham, par exemple, que le moi en état de guerre a peur, pas seulement de l'ennemi, il a peur de lui-même. Il a peur des excès qu'il va faire sur le front de guerre. C'est comme s'il allait céder à la tentation de mourir. Par exemple, prendre des risques inconsidérés, faire des prouesses. Et c'est à partir du moment où le sujet a peur que, je vais dire comme ça, que la pulsion de mort profite de l'état de guerre pour sévir. C'est une idée extrêmement intéressante. Ça voudrait dire que les soldats avaient peur non seulement des ennemis en face, des boulets, etc., mais de leur propre déchaînement de cette tendance à mourir. Je vais donner un autre exemple clinique peut-être un peu plus
tard. Ce qui est bizarre, c'est que ce propre déchaînement est l'expression de l'inertie dans la vie organique.
Voilà.
C'est quand même ça qui est étonnant, c'est-à-dire que un soldat qui se jetterait devant sous le vent des canons, qui se jetterait sur le champ de bataille à corps perdu, oui. Parce qu'il a peur, justement, exprimerait l'inerte au sein de la vie organique.
Exactement. Un autre petit exemple plus pacifique, le vertige. Alors, vous me direz quel rapport. Il y a des gens qui, quand ils sont... Voilà. Et c'est ça les mystérieuses tendances masochistes du moi. Ça veut dire que quand le sujet a un vertige... Il a peur de sa propre tentation de se jeter dans le vide. Évidemment, il veut tout sauf ça. Hein, sauf dans des cas, évidemment, de défenestration. D'ailleurs, la défenestration apparaît comme l'une des formes éminentes, n'est-ce pas, où le sujet se jette dans ce trou et répond à l'appel de la mort. Vous savez que c'est extrêmement mystérieux, mais peut-être que ça s'éclaire par cette tendance-là. Le sujet, si j'ose dire le sujet normal, il résiste à cette tendance. Mais au moment où il sent, vous voyez, c'est un exemple très, très concret, la tension entre l'autoconservation et l'envie de se jeter, il prend peur de lui-même, et qu'est-ce qui se forme? Le vertige. Le vertige pathologique, hein, c'est le moment où le sujet, au fond, a peur d'une force qui vient du dedans, mais qui réapparaît dehors.
Oui. Est-ce que la pulsion de mort est active? Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on peut parler, par exemple, à propos de la pulsion de mort, d'une passion de se nuire, ou d'une action de se nuire?
Alors, d'abord, la pulsion de mort ne se rencontre jamais directement. Elle est, en même temps, nous dit Freud...
Enfin, il y a des moments où elle crève les yeux, quand même.
Oui, mais regardez, elle est silencieuse, d'abord, nous dit Freud. Il compare ça à une rumeur. C'est un peu... moi, ça me fait penser comme au bruit de la mer, enfin, cette espèce de houle. Et à partir d'un certain moment, elle devient bruyante. Voilà. Et c'est cette tension. Eros est bruyant, enfin, il est visible. La pulsion de mort ne fait pas de bruit jusqu'au moment où elle éclate. Elle éclate dans tous les phénomènes qu'on a évoqués. Elle éclate dans les passages à l'acte. Les passages à l'acte pathologique, c'est ça. Les sujets disent c'est impulsif, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est ma bêtise, etc. Freud montre bien que c'est la pulsion de mort qui guette. Sauf à quand même revenir toujours à cette idée que la pulsion de mort a des emplois propices au désir. Hein. La mort n'est pas mauvaise. Quelqu'un qui n'est pas capable d'élaborer sa pulsion de mort, mènerait une vie, si j'ose dire, triste, toujours identique à elle-même. Donc,
est-ce qu'au-delà du, au-delà du principe de plaisir, c'est-à-dire après les textes qui suivent, ont tous été marqués par cette pesanteur nouvelle, donc,
oui,
de la pulsion de mort. C'est-à-dire, est-ce qu'on y a-t-il un texte de Freud ensuite qui reviendrait finalement à ces vieilles amours?
Non. Alors voilà, dans Inhibition, symptômes et angoisses, il tire toutes les conséquences dans la fin de l'analyse, enfin dans la technique analytique, parce qu'il faudrait évoquer la pulsion de mort, elle est aussi dans la cure. Hein. Voilà, quand le sujet ne veut pas guérir, quand il y a la réaction thérapeutique négative. Hein, quand le sujet s'aperçoit au moment où il fait des progrès, si vous annoncez à un patient « Oh, ça va bien mieux », il va faire une rechute souvent, dit Freud. Cette mystérieuse tendance du ne pas vouloir guérir. Par contre, il fera quand même une mise au point en disant que, contrairement à Schopenhauer, par exemple, qui est un grand précurseur de la théorie de la mort, pour lui, la mort n'est pas vraiment le but de la vie. Il y a un vrai dualisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, chez Freud, un éloge de la pulsion de mort, encore moins un éloge de la mort, hein. Il n'y a pas une métaphysique de la mort qui serait en quelque sorte supérieure à la vie. C'est un conflit central. Mais il en arrivera presque à dire, alors ça va compliquer les choses, peut-être les éclairer, d'ailleurs tout ce qu'on a dit, peut-être qu'on peut dire, c'est pas qu'il y a des pulsions de mort à côté des pulsions de vie, peut-être qu'il y a une tendance à l'intérieur de toute pulsion à revenir à l'état antérieur. Alors ça, c'est la vraie révolution.
Merci infiniment, Paul-Laurent Assoun. C'était passionnant de vous entendre. Vous êtes psychanalyste, professeur à Paris 7, directeur de la collection Philosophie d'aujourd'hui aux Presses universitaires de France. Vous êtes également l'auteur de Freud, La philosophie et les philosophes, paru aux Presses universitaires de France, récemment réédité dans la collection Quadrige. Ainsi qu'un Freud et Nietzsche, d'ailleurs, toujours au PUF, dans la collection Quadrige. On en est à la 4e édition aujourd'hui. De Freud et autour de Freud, de façon générale, au terme de cette semaine, je voudrais rappeler la bibliographie suivante. D'abord, la biographie de Freud par Peter Gay, les œuvres complètes de Freud qu'on trouve aux Presses universitaires de France, naturellement. Notre cœur tend vers le sud, son carnet de voyage, préfacé par Elisabeth Roudinesco. Le dictionnaire de la psychanalyse, également, de Michel Plon et Elisabeth Roudinesco chez Fayard.